Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est un culte famille, donc on va particulièrement penser à vous, les jeunes, les enfants. Et j'ai choisi comme thème les oiseaux. J'aime beaucoup les oiseaux. Il y en a un que j'aime particulièrement, hein, ça va très vite, c'est celui-là. Parce que quand j'étais petite, j'avais 5 ans, ma maman, elle a trouvé un chien avec dans sa gueule cet oiseau. Et elle a pu le sauver, mais pas son aile. Et il a vécu chez moi jusqu'à l'âge adulte. J'avais 20 ans quand le petit oiseau est décédé. C'est un verdier. Voilà. Alors, j'ai choisi, au lieu de prendre un oiseau ou deux, d'en prendre une certaine quantité. Il y en a 3 fois 3. Ce n'est pas dit que j'arriverai à faire tous les oiseaux, parce que c'est un petit peu plus tard que ce que je pensais. Mais je vais faire mon possible. Et puis, pour les enfants qu'ils désirent, au fur et à mesure, ils pourront aussi colorier les oiseaux qui sont derrière. Voilà. Alors, quand Jésus il a dit « Regardez les oiseaux dans le ciel », moi, je me suis un peu renseignée, justement, quels sont les oiseaux dans le ciel, et je me suis rendu compte que Israël est le centre mondial d'ornithologie, parce que 2 fois par année, il y a, je ne sais pas si vous vous rendez compte, entre 500 millions et 1 milliard d'oiseaux qui survolent le pays. Voilà. Et c'est en ce moment que ça se passe aussi. C'est énorme. Ça fait des nuages qui se rassemblent comme ça. Et il y a même des moments où il fait presque nuit à cause des nuages d'oiseaux. Et quand Jésus l'a dit, mais regardez les oiseaux dans le ciel, il y en avait peut-être beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais ça, on ne le sait souvent pas. Hein. Voilà. Et ça, c'est un danger pour les avions, justement. Et un temps, il y a eu plus d'avions militaires qui sont tombés à cause des oiseaux qu'à cause de la guerre. Donc, ils ont dû développer toutes sortes de stratégies. Et ce n'est pas toujours des petits oiseaux. Hein. Vous voyez là, c'est des cigognes. Donc, vous imaginez que ça rentre dans les réacteurs des avions. Et les oiseaux se posent dans les champs. Donc, avant, c'était des endroits sauvages où ils pouvaient manger et repartir. Mais maintenant, ça tombe sur les champs des paysans. Au début, ils les ont chassés, mais les oiseaux ne pouvaient plus repartir parce qu'ils ne pouvaient pas manger. Et donc, aujourd'hui, Israël, donc ça, c'est des grues, eh ben, ils doivent nourrir ces oiseaux. C'est des tonnes et des tonnes d'aliments qui sont donnés aux oiseaux pour qu'ils repartent. Vous voyez le paysan qui arrive pour donner à manger. Même les pélicans hein, viennent sur le lac, par exemple, et on leur donne des tonnes de poissons. Voilà, pour qu'ils puissent repartir. Alors, les 3 premiers oiseaux que j'ai choisis, ils parlent de fidélité et d'attachement. Et dans ces nuées d'oiseaux qui traversent Israël, ben, y a l'hirondelle. Les hirondelles y nichent, ils élèvent leurs petits et ils sont très fidèles vis-à-vis de leurs petits. Ils emmènent jusqu'à 1000 insectes par oiseau par jour. Donc, ça mange énormément. Et chaque petite hirondelle, c'est un miracle. Quand on pense à l'énergie dépensée, une hirondelle, elle peut faire 5 à 7 000 kilomètres quasi sans se poser. Les martinets, ils se posent même, pour ainsi dire, jamais. Voilà. Et puis, les parents sont fidèles puisqu'ils donnent à manger à leurs petits, même une fois qu'ils sont sortis du nid. Il y a quelqu'un qui a observé ces oiseaux il y a plus de 2500 ans et qui dit « Mais j'aime tellement ta maison, je meurs d'impatience d'entrer dans ton temple. » Puis il dit « Mais même l'hirondelle, il trouve un lieu pour mettre ses petits dans un nid. » Et il dit « Mais c'est tellement génial, ceux qui habitent chez toi. » Et je ne sais pas si vous voyez où sont les hirondelles. Ils font souvent leur nid dans les églises. Voilà, on en voit là. Et dans la partie noire, comment est-ce qu'on fait là? Bah, c'est tous des nids-hirondelles qui nichent dans la maison ou sur la maison. Il y en a même qui vont sur les statues de la mère de Jésus, de Marie. Voilà. Et l'hirondelle, elle nous parle aussi d'un autre type d'attachement. C'est que l'hirondelle, elle connaît son chemin pour faire ses gigantesques migrations. Elle revient toujours là où elle est née. Et Dieu, c'est comme un reproche qu'il nous fait des fois. Il dit, mais même les hirondelles, elles savent leur chemin, comment elles doivent se comporter. Et c'est comme dans un soupir que Dieu dit, mais reviens à moi de tout ton cœur. Connais ce chemin qui vient jusqu'à moi. Voilà. Alors, on va laisser les hirondelles discuter entre elles. Puis, on va passer vers un autre oiseau, qui est la colombe. Si j'avais des ailes comme une colombe, je m'envolerais et je trouverais du repos. J'ai vu que le mot colombe ou pigeon, il est quasi interchangeable parce que c'est la même famille. Alors, on connaît tous l'histoire de la colombe hein, que Noé a envoyée pour savoir après le déluge si c'était possible de sortir. Hein. Et puis, il a ramené une branche d'arbre pour dire, ben oui, l'eau est en dessous des arbres, c'est possible. Et puis, la colombe, ça a toujours représenté la pureté, la tendresse, l'amour. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que dans l'ancien temps, la colombe, elle représente bien sûr le Saint-Esprit, et c'est la colombe qui redescend sur Jésus au moment où il se fait baptiser. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, la colombe ou le pigeon, il représente l'attachement. Et les gens de tous les pays du monde, ils le savaient, on retrouve vraiment des colombiers ou des pigeonniers un peu partout dans le monde. C'est ces petits endroits face au soleil où la colombe ou le pigeon, la tourterelle va faire son nid. Ça, c'est une église en Italie où j'ai pris cette photo. Et dans chaque petit trou, il y avait un pigeon. Puis après, les gens, ils savent une chose, ils ont compris une chose, c'est que la colombe, elle était attachée à son lieu de naissance. Et que si on l'éloignait de cet endroit-là, même à des centaines de kilomètres, voire milliers, le pigeon, voyageur, il retourne à son lieu de naissance. Alors, on prend les pigeons, on leur attache, on les éloigne de leur lieu de naissance, on leur attache un message dessus, voilà. Ou bien on leur attache un objet qui peut contenir quelque chose qu'on a envie que cette colombe transporte, ou dans son dos. Ça peut être devant, ça peut être même un appareil de photo, ça servit pour l'armée, par exemple. Et une fois qu'on a éloigné le pigeon, eh ben lui, il va revenir à l'endroit où on a envie qu'il revienne, parce qu'il est attaché. Et il y a quelque chose qui l'attire vers son lieu d'origine. Là où il est né. Et moi, je trouve fantastique de penser que quand Jésus, c'est sous la forme d'une colombe que le Saint-Esprit est venu vers lui, c'est comme si le Saint-Esprit retrouvait son lieu d'origine et revenait là où il est bien. Et je trouve que c'est vraiment fantastique cette image qu'entre Dieu et son Fils, il y a cette colombe qui vient. Parce que la colombe, on peut l'habituer à un deuxième endroit où elle peut aller. Et il fait le voyage entre ces deux lieux. Alors voilà, pour moi, ça me parle beaucoup de notre attachement et de l'attachement de Dieu à nous, de l'attachement du Saint-Esprit à Dieu et à Jésus. Et que c'est quand on appelle le Saint-Esprit pour venir vers nous, eh ben, ça nous ramène au lieu d'origine qui est justement le cœur de Dieu. Et puis ça, c'est le troisième oiseau. Si on était en Afrique, ça nous ferait tout de suite penser à un oiseau. Je ne sais pas si vous voyez lequel. Non? C'est à l'autruche, c'est un nid d'autruche qui est vide. Et puis, il y a un verset de la Bible qui dit que justement, l'autruche, ben, elle pond ses œufs par terre, puis après, elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Et puis, il y a un endroit qui dit, ben voilà, l'autruche, elle abandonne ses petits. Alors, c'est vrai qu'il arrive que l'autruche l'abandonne. Mais en fait, c'est la maman, c'est la femelle. Elle pond ses œufs et un certain nombre d'autruches femelles, effectivement, laissent les œufs. Et puis celui qui va prendre la relève, eh ben, c'est le papa, le mâle. Et moi, ça me rappelle un autre verset qui dit, c'est quelqu'un qui disait, le Seigneur m'a abandonné. Et le Seigneur lui dit, tu dis que moi, je t'ai abandonné. Et il dit, une femme oublie-t-elle son bébé et ne plus avoir de tendresse pour son petit? Mais moi, je ne t'oublierai jamais. Et je trouvais beau de penser que c'est vrai, on peut vivre des abandons dans nos vies, mais un peu comme le papa autruche, lui, il va jamais abandonner ses petits. Et Dieu, Père, il est comme ça avec nous. Il va couver les œufs ou être très proche d'eux quand il fait très très chaud. Il va les protéger. Et puis, quand on dit cacher sa tête dans le sable ou faire l'autruche, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'elle fait, l'autruche, quand elle fait ça? Non, vous n'avez pas une petite idée? En fait, elle ne se cache pas. Elle retourne ses œufs pour que les deux côtés des œufs puissent chauffer tout le temps. Voilà, à cause de son poids, elle a l'habitude de laisser l'autruche les œufs au soleil puis de les retourner régulièrement. Alors, quand le nid est en profondeur, on voit plus sa tête. Voilà, un mystère éclairci. Et voilà un papa avec son petit, ils sont des très très bons pères pour leurs petits. Et ça nous parle que Dieu est un très très bon père pour nous, pour chacun d'entre nous. Même si on souffre d'abandon, si des amis nous abandonnent, si on n'est pas compris même par nos parents, eh ben on a un père qui lui, eh ben il nous guide même sur le chemin sur lequel on est, même si on est très nombreux. Alors, on continue ce voyage au pays des oiseaux. Et puis, en regardant les oiseaux, ben, on fait exactement ce que Dieu nous demande de faire. Les trois prochains oiseaux, pour moi, alors, ça parle du cœur, de mon cœur. Et ce message, il est assez subjectif parce que moi, je vous raconte l'effet. De m'être intéressée à ces oiseaux. Mais peut-être que vous, c'est tout autre chose que Dieu vous dit. Et c'est important que chacun se laisse libre vraiment d'entendre ce que Dieu a envie de dire à travers les oiseaux. Dans la Bible, il y en a plus de 52. Et à l'époque où ces textes qu'on voit au fur et à mesure ont été écrits, les autres peuples. C'est les oiseaux en partie qui commandaient leur vie. Par exemple, dans tout l'Empire gréco-romain, on prenait une poule, on mettait des graines devant elle. Si elle mangeait les graines, ça voulait dire qu'on pouvait entreprendre le projet qu'on voulait faire. Si la poule, elle dédaignait les graines, ça voulait dire qu'il fallait surtout pas, ce jour-là, entreprendre quelque chose. Le roi d'Égypte, le pharaon, était représenté par un faucon, et lui-même, il y a des statues où on le voit à genoux devant un ibis, qui était une déesse. Et on a retrouvé des dizaines de milliers de momies, on en parle peu, mais peut-être même plus, de momies et de faucons et d'ibis, c'est-à-dire la place que prenaient les oiseaux, et combien ils étaient importants, mais c'était des créatures pour le peuple d'Israël, mais pour les gens, c'était quasi des dieux. Voilà. C'est Dieu qui pose cette question, mais qui a donné le discernement au coq? Alors, le coq, c'est un bel animal très coloré. Ça, c'est le coq du Bruyère. Ça, c'est des coqs plus exotiques. Celui-là, c'est de l'île de Java. Et puis, il y a des coqs qui grimpent aux arbres. Voilà. Ça, c'est un coq chevelu. Et puis, ça, c'est le coq le plus cher au monde. Il vaut entre 5 et 10 000 euros quand il est tout noir comme ça. Voilà. Et puis, ça, c'est un coq intelligent. Il a fait en sorte que son pire ennemi devienne son ami, le renard. Alors, la question, c'est, est-ce que vous savez pourquoi le coq est sur le toit des églises, particulièrement les églises protestantes? Il annonce le matin, il annonce autre chose aussi. Pardon? Alors, la direction des vents, parce que souvent, voilà, il peut tourner. Ça, voilà, tout ça. Il rappelle le reniement de Pierre. En direction du vent, exactement. Parce qu'il veille. Peut-être. Il annonce le lever du soleil. Non, mais tout ça, c'est juste. Et puis, il y a certainement d'autres choses encore. En fait, il annonce aussi la fin de la nuit. Parce que dans la nuit, nos cœurs, hein, ben c'est souvent là qu'ils font les bêtises, en cachette. Mais c'est aussi ce qu'on cache à Dieu, c'est ce qu'on ose faire quand personne nous voit. C'est un monde souvent où l'ennemi se déchaîne, le monde de l'obscurité, c'est ce qui est arrivé pour Pierre aussi, hein. Et au moment où le coq chante, il y a le jour qui se lève. C'est la fin de la nuit. Et les œuvres, ce qu'il y a dans nos cœurs, c'est révélé. Et moi, ça me touche de penser que le coq, il fait la transition entre les deux, entre la nuit et le jour. Et les églises, on devrait être ça aussi. On annonce la fin de la nuit, le lever du jour. Mais ça nous interpelle aussi par rapport à la question de l'authenticité. L'obscurité, les ténèbres ne devraient pas régner au milieu de nous. Mais la lumière qui éclaire nos cœurs et l'authenticité, la vérité, la confession, c'est quelque chose de très important qui nous aide beaucoup en fait. Ça devrait être le lieu où on est libre d'être qui on est vraiment, avec tout notre besoin que Dieu nous aide. De notre aujourd'hui, de notre réalité. Voilà, qu'on sent honte, qu'on ose partager ça. Alors, j'aime beaucoup le coq pour ça. Ça me parle de cette réalité. Voilà. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, le hibou. Et il y a ce verset qui dit que le hibou prend possession des ruines et y fait sa demeure. Et ça me touche par rapport à nos cœurs parce qu'il y a des parties de nos cœurs des fois qui ressemblent à des ruines. Et franchement, on parle d'Israël et en Israël, il y a des choses qui sont à l'état de ruines aujourd'hui. Et le hibou, lui, il dédaigne pas les ruines. Il y habite, il y fait sa demeure. Et il y a beaucoup de versets qui disent que Dieu non plus, il dédaigne pas nos ruines. On l'appelle déjà le réparateur des brèches. Mais il y a cette promesse dans, par exemple, 61, que Jésus il est entré dans le temple. Le texte qu'il a choisi, c'est Ésaïe 61, qui dit que l'Esprit de Dieu m'a oint, il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Et une fois qu'il dit tout ce que lui-même aimerait faire dans les cœurs brisés, la promesse, c'est qu'ils relèveront les anciennes villes, ils rebâtiront les maisons abattues, ils restaureront les villes restées si longtemps dévastées. Je vois que j'ai mis un S au lieu d'un T. Restaureront, excusez-moi. Heureusement que je peux corriger ça. Mais moi, ça me parle, parce que d'un côté, Jésus veut vraiment nous restaurer nos cœurs et relever dans ces ruines. Hein, il est celui qui répare ce qu'il y a de brisé en nous. Et en même temps, nous-mêmes, on est appelés à restaurer ce qui est perdu. Et un peu comme le hibou qui dédaigne pas les ruines, mais même qui prend possession des ruines, on est peut-être aussi appelé à prendre possession des ruines, comme nous l'a rappelé aussi Anne Rose, mais aussi Anne France, Rose Blanche et Marie France. Anne France, non, mais je me mélange tout le temps les noms composés. Ça fait partie de Ésaïe 58, de nouveau, que si on accomplit le jeûne auquel Dieu prend plaisir, alors on relèvera les anciennes ruines. En fait, ça veut dire que rien n'est perdu avec Dieu. Et Dieu, comme le hibou, il tient aux ruines. Voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup le hibou. Et puis, c'est un animal qui me paraissait sympathique aussi, parce que quand il est jeune, là, il s'enfile auprès d'un chien ou près d'un renardeau. Voilà. Et puis, alors, le corbeau, qui fait aussi partie de l'histoire de Noé, pour moi, il était franchement antipathique, parce que je l'ai vu un jour attaquer un merle. Et voilà, il nous avait volé de la nourriture sur notre balcon quand j'étais petite. Pour moi, je n'ai pas aimé particulièrement les corbeaux. Et puis pour ceux qui ont vu le film de Hitchcock, ces grands rassemblements de corbeaux, c'est assez glauque hein, quand même. Ce n'était pas une image très positive que j'avais de cet oiseau. Mais en m'y intéressant, parce que c'est marqué dans la Bible que c'est Dieu qui donne à manger aux petits du corbeau lorsqu'il crie. Et moi, j'ai posé la question à Dieu, mais pourquoi tu nourris les corbeaux quand même? Voilà. Et ça, c'est un bébé corbeau. Ben, c'est déjà plus mignon. Je peux comprendre que le cœur de Dieu est un peu ému. Voilà. Ben, je me rappelle de l'histoire du corbeau qui fait des cadeaux à Élie en pleine sécheresse où tout le pays est affamé. Ben, il y a un corbeau qui vient, des corbeaux qui viennent lui donner de la viande. Et en fait, je me suis intéressée, comment ça se fait que le corbeau il fait ça, de donner des cadeaux comme ça? Ça, c'est l'histoire d'une petite fille dans les pays de l'Est qui a nourri les corbeaux. Et le résultat, regardez ce que les corbeaux lui ont amené comme cadeau. Jour après jour, ils ont fait un échange. D'un côté, la petite fille leur donnait à manger et eux, ils lui ramenaient tout ce qu'ils trouvaient d'un peu brillant, d'un petit peu spécial dans la nature. C'est tellement développé chez le corbeau qu'il y a un endroit, Puy de Fou, je crois que ça s'appelle comme ça, ouais, où il y a des spectacles avec des aigles et tout. Puis ils utilisent les corbeaux pour ramasser tous les déchets. Alors ils ramassent vraiment tout ce qu'ils trouvent, papier d'alu, verre, cassé, cigarette, voilà. Puis ils le déposent dans un endroit, dans cette boîte. C'est le cadeau qu'il fait. Et puis ça, monsieur, moi, ça m'a fait penser à toi, Rémi, le monsieur. Eh bien, il leur offre, ben là, c'est des noix de cajou, ouais. Ils font un échange. Du reste, dans la nature, je ne sais pas si vous savez que les corbeaux, ils sont toujours là où sont les renards et les loups, parce que les corbeaux, ils peuvent voler au-dessus, et puis ils voient où il y a de la nourriture, puis ils vont vers le loup, puis ils le harcèlent, ils le piquent, ils le croisent dans les oreilles, jusqu'à ce que le loup en a tellement marre qu'il veut l'attraper, qu'il commence à courir après, et en fait, comme ça, il arrive à l'endroit où il y a la nourriture. Et quand c'est gelé, par exemple, ben, le loup, il défait ce qu'il est en train de manger. Et puis au bout d'un moment, le corbeau, il peut aussi aller manger. Puis en fait, il y a une symbiose entre les deux. Voilà. Donc, moi, j'ai pensé au corbeau. Et je me suis dit, c'est vrai que Dieu lui donne à manger, le nourrit. Et après, il a un cœur reconnaissant. Puis, il y a quelque chose qui fait que lui, il va rendre, il va faire un cadeau. Et moi, ça me parle aussi de l'état de nos cœurs que Dieu veut remplir. Et eh ben Dieu, la louange, par exemple, ou quand on a envie de lui faire plaisir, quand voilà, eh ben comme un corbeau, on peut aussi lui faire à notre tour plaisir, lui faire un cadeau. C'est déjà nos vies, mais c'est beaucoup de petites choses qui réjouissent son cœur. Et j'aime depuis les corbeaux et son exemple. Voilà. C'est intéressant hein, de regarder les oiseaux. Moi, j'en ai pris 9, mais il y en a 52. Hein. Les trois prochains oiseaux nous parlent de faire confiance à Dieu. D'être dans cette position où on se repose en lui, et puis où la peur, quand elle surgit assez rapidement, le plus rapidement possible, s'apaise. Même nos cheveux sont comptés et chaque jour suffit sa peine. Il faudra quand même qu'il sache, le petit là, sur quel pied il veut danser. Un peu écartelé là. Alors les moineaux, ils sont un peu comme nous, ils aiment beaucoup se baigner quand il fait chaud. Ils aiment manger les glaces. Là, ils sont en train de picorer dans la neige. Ça vaut la peine de leur donner à manger en hiver. C'est aussi une façon qu'a Dieu de prendre soin des moineaux. Ils sont très chamailleurs. Et paraît particulièrement dans les couples, les femelles, elles sont carrément jalouses et elles sont possessives sur les mâles. Mais là, c'est le mâle qui lui dit de se taire. Moi, les moineaux, c'est vrai, ça m'interpelle de me dire qu'il n'y en a aucun qui tombe à terre à l'insu de Dieu. À l'époque, les gens, ils mangeaient les moineaux. Hein. Il y en avait pour quelques sous sur les marchés. Et puis, ça me touche parce que quand on aime les oiseaux, ben, un petit moineau, ça fait mal au cœur. On se dit, il y a à peine une bouchée de viande. Et puis, Dieu nous dit, mais il n'y en a aucun qui tombe à terre à l'insu de Dieu. Et moi, ça me parle. Je me dis, mais moi qui aime beaucoup les animaux, je me pose toujours la question, mais qu'est-ce qu'ils deviennent après, une fois qu'ils sont morts? Et même là, Dieu nous dit, mais t'inquiète pas, il n'y en a pas un qui est tombé à mon insu. Et il y a quelque chose, voilà, ça me touche de penser que ça compte pour Dieu, et il sait. Si moi, j'ai mal au cœur pour un moineau, alors le cœur gigantesque de Dieu, vous imaginez? Pour un moineau. Alors là, il y en a un qui a eu la chance d'être sauvé. Et Dieu a inspiré quelqu'un d'en prendre soin. Et c'est ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. Quand on tombe, il ne nous lâche pas. Et on est vraiment dans sa main. On grandit. Et une des façons de grandir bien, c'est de ne pas nous inquiéter du lendemain, parce que le lendemain aura soin de lui-même, et c'est là que Jésus dit « chaque jour suffit sa peine ». Et puis le petit moineau devenu grand, il peut même devenir très courageux. Hein. Vous voyez ce qu'il est en train de piquer un croissant à un pigeon, il faut le faire. Ça vaut la peine de faire confiance à Dieu. Parce que même face à ce qui est plus grand que nous, eh ben, Dieu nous donne du courage, comme le petit moineau dont il a pris soin. Ça me touche aussi beaucoup l'histoire de la poule. C'est Jésus qui dit ça. « Ô Jérusalem, Jérusalem, vous qui tuez les prophètes. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes ?» Et vous ne l'avez pas voulu. Je trouve tellement incroyable qu'il compare à ceux qui tuent les prophètes à des petits poussins. On en verra d'autres tout à l'heure, combien c'est mignon. Je me dis, c'est le regard que Jésus il a sur nous. Et ça vaut la peine de connaître un peu les poules, parce que Jésus, en disant ça, il connaît très bien les poules. Alors, on dit souvent « poule mouillée ». Alors, je vous en ai mis une. Et poule mouillée, ça veut dire qui est lâche, hein, qui a peur. Mais en réalité, la poule, déjà, elle flotte dans l'eau. Je vous ai montré une dans une baignoire. Mais elle est hyper courageuse. Quand elle a des petits, elle a peur de plus rien. Elle s'attaquera à des chiens, s'il faut. Vous voyez, qui court vers le chien pour pas qu'il s'approche de ses petits. Là, on voit carrément le chien qui se dit « mais elle me veut quoi ?» Alors, on a l'habitude de savoir que les serpents, ils mangent les œufs des poules, hein, mais les poules, elles mangent les serpents. Vous la voyez en train de manger là? Là, on voit mieux. Voilà. Elle n'a pas peur des serpents. Il y a même les deux autres qui lui courent après pour lui piquer son repas là. Et quand le serpent est trop grand, comme celui-là, ben voyez les poules, elles se mettent avec les pandas tout autour et elles font reculer les serpents comme ça pour protéger leurs petits. C'est dire combien une poule est courageuse. Et Jésus est très courageux pour nous protéger. Il y a une autre chose aussi qui me touche beaucoup chez la poule, et ça c'est le papa Peter Schmidt. Vous savez qu'une des plus grandes églises francophones, un des fondateurs, c'était Samuel Peter Schmidt. J'ai eu le privilège, quand je devais avoir 18 ans, 19 ans, d'être assise à côté de lui lors d'un repas. Puis on parlait des animaux de la ferme et on a parlé des poules. Il racontait cette histoire. Il disait, nous les chrétiens, puisque Jésus nous compare à des poussins, petit poussin deviendra grand, donc on devient des poules aussi. Il dit, on devrait être comme la poule avec nos sujets de prière. Quand on commence à prier, nos sujets de prière devraient être comme les œufs qu'on couve. Et la poule, à partir du moment où elle chauffe et puis qu'elle couve ses œufs, elle va y rester jusqu'à ce que les œufs peuvent éclore. Elle va pas lâcher ses œufs parce qu'elle sait que si elle part, les œufs se refroidissent et c'est fini. Il faut tout recommencer. Et moi, ça me touche de me dire, mais quand on commence un sujet de prière, des fois on se décourage. Et on attend l'exaucement, puis il y a d'autres choses qui se passent parce qu'on a la foi dans la foi de nos prières plutôt qu'en Dieu. Et puis on reste pas sur nos prières au lieu de se poser la question, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire là depuis que je suis en train de prier? Et je pense que c'est un bon exemple. Vous savez, j'ai montré cet exemple parce que la poule, elle chauffe tellement l'endroit où elle est que les animaux de la ferme, comme ce petit chat, bah, il vient pour se faire chauffer. Là, c'est des petits chiots qui viennent sous la poule. Voilà. Parce que là, c'est un petit porcelet. Voilà. Les animaux de la ferme, ils savent que la poule, quand elle chauffe et qu'elle bouge plus, voilà ce qu'elle. C'est un endroit agréable. Donc, on voit la naissance. Et puis, Jésus, il savait une autre chose de la poule. C'est qu'il semble qu'une poule, quand elle a ses petits, qu'elle rassemble sous elle, après elle les accompagne pour les premières promenades, ça c'est quand il pleut, même quand il fait mauvais temps, elle les prend sous ses ailes, hein, puis c'est elle qui se fait mouiller. Mais au-delà de ça, il paraît que la poule, elle est prête à donner sa vie pour ses poussins. Et on raconte une histoire d'une poule qui a rassemblé ses poussins lors d'un feu où tout a brûlé autour d'elle et le feu est passé sur la poule. Et le lendemain, quand le paysan est venu, ben, il a trouvé la carcasse de la poule. Et quand il a soulevé la carcasse, eh ben, tous les poussins étaient vivants dessous. Et moi, j'imagine que Jésus, quand il se compare à une poule, ben, il a aussi pensé à ça. Cette capacité de la poule à protéger ses petits jusqu'au bout. Puis moi, je trouve génial de penser que Jésus nous voit comme ça. Même quand on tue des prophètes, c'est que vraiment, vraiment, on est mauvais, hein. Ben, même comme ça, il nous imagine, voilà, aimons la douceur. Voilà. Puis ça, c'est le dernier oiseau que j'ai pris, c'est un petit peu à l'inverse, hein. Un oiseau, le roi des oiseaux. Quand j'ai mal dormi une nuit, puis que je compte les heures de sommeil que j'ai eues, puis que je dois me lever tôt, puis que j'ai une immense journée devant moi, je me dis, mais je vais être mal. Et je pense à ce verset. Je me dis, mais non, si je compte sur l'Éternel, il va renouveler mes forces. Et je ne dois pas faire dépendre mes forces du nombre d'heures que j'ai dormi, mais justement de l'Éternel. Et franchement, j'ai tellement de fois expérimenté que oui, il me donnait la force pour ma journée. Comme l'aigle, vraiment. Alors voilà comment il prend son envol, hein, parce qu'on parle de l'envol. Et c'est lui qui vole le plus haut. Il dépend des courants. Et je trouve extraordinaire l'aigle parce qu'il est capable de monter, je crois, 320 mètres en 10 secondes à cause des courants chauds qui le soulèvent. Et ça parle de l'esprit de Dieu, du courant de l'esprit qui nous soulève. Hein. Voilà quelques images de la hauteur de l'aigle. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des Falachas, des Juifs qui habitaient en Éthiopie, qui depuis des millénaires étaient là-bas et gardaient le rituel juif, mais qui sont noirs. Et un jour, ils ont été vraiment en danger de mort dans leur pays. Ces photos datent des années 60-70. Et c'était des gens qui n'avaient pas d'électricité, pas d'eau courante, qui vivaient vraiment presque comme au Moyen-Âge. Et quand ils ont été vraiment en danger, Israël a décidé de ramener les Falachas en Israël. Et ces gens n'avaient jamais vu d'avion. Et c'était en temps de guerre, donc ils sont venus de nuit en cachette pour les ramener. Et c'était tout un problème pour eux quand ils ont vu l'avion de se dire « mais on ne peut pas rentrer là-dedans, c'est quoi cette espèce de gros truc qui ressemble à un oiseau ?» Et pour les convaincre, on leur a montré un texte qui dit « vous avez vu comme je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi ?» Et ça, ça les a convaincus. Et ils sont entrés, vous les voyez, dans l'avion là. Et c'est par milliers qui se sont envolés, qu'ils ont pu arriver en Israël. Et voilà, là, c'est leur... Ils sont tous perdus quand ils sont arrivés. Les soldats leur donnent à manger, c'est leur premier repas en Israël. Et maintenant, il y a plusieurs générations des descendants des Falachas, ces Juifs d'Éthiopie. On leur donne un autre nom, en fait. Voilà. Et je trouve beau parce qu'ils se sont basés sur un texte qui date de centaines d'années avant Jésus-Christ pour leur donner du courage pour monter dans un avion. Et pour eux, c'était monter sur l'aigle. Ça ne fait pas longtemps qu'on sait que les aigles sont capables de transporter des oiseaux. C'est depuis qu'avec les ULM, on peut les voir et prendre des photos. Qu'effectivement, l'aigle, il porte sur lui. Il peut transporter, par exemple, un corbeau. Donc, c'est vrai que Dieu peut nous porter sur ses ailes. Et ça, vous voyez, un texte comme ça qui est écrit depuis si longtemps, on n'avait jamais vu les aigles porter quelqu'un sur leur dos. Mais là, on le voit maintenant. Il y a beaucoup de textes qui parlent de l'aigle. Et c'est l'image que là, on est sur la terre avec tout ce qu'il y a, tous les problèmes qu'on peut avoir et tout. Et c'est cette prière de dire, mais amène-moi en haut, là où plus personne ne peut m'atteindre. Et quand on voit les nids d'aigles, c'est un endroit où il n'y a plus de prédateurs. Il n'y a plus personne qui peut y aller, à part l'aigle lui-même. Et ça, c'est la promesse de Dieu pour nous. C'est qu'il est notre aigle, et nous sommes ses petits, et c'est là qu'on niche dans une totale sécurité. Après, quand on pense au petit qui va grandir dans cet endroit-là, je ne sais pas si vous vous posez la même question que moi, il y a quand même un problème. Il peut tomber du nid, oui, mais il y a un autre problème. C'est pour s'envoler. Parce qu'il ne va pas avoir deux chances. Hein. Il faut que la première fois qu'il s'envole, ce soit pour de bon. Parce que sinon, il peut être précipité en bas. Donc, il s'exerce un peu sur son nid, mais pas trop près du bord, parce qu'il risque de tomber. Et je trouvais extraordinaire que même pour là, il y a quelqu'un qui a observé les aigles et qui a aperçu que Dieu est pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Et que les parents ne sont pas loin quand l'aigle va s'élancer. Il est là. Et nous aussi, quand on prend des risques, quand on s'envole, quand pour la première fois on se précipite, puis qu'il y a du vide et qu'on a peur, on peut avoir l'assurance quand on s'est confié en Dieu que comme l'aigle, il est là. Il vole et nous rattrape, il nous couvre de ses plumes et on trouve un refuge sous ses ailes. Et on n'a pas besoin d'avoir peur, ni des terreurs de la nuit, ni des flèches, de la flèche qui vole du jour. Voilà. Alors ça vaut la peine de regarder les oiseaux. Soyez bénis pour la suite.